ces temps de prohibition, Chicago était un endroit idéal pour surveiller les trafics clandestins d'alcool entre le Canada, où il était en vente libre, et les États-Unis, où il était interdit. Pour 18 000 $ par an, Al Capone louait au Lexington une suite de 6 pièces d'où il surveillait les opérations. Chaque soir, le tout Chicago, bonne société, politiciens et mafiosi, se retrouvait dans les salons et les salles de bal de l'hôtel, aux accents de la trompette d'Armstrong ou du piano d'Ellington. Frisson garanti.
Les criminels. Qui commet un crime, qui est condamnable pour une action illicite. Durant une petite heure, Jessica et moi-même allons plonger dans le sombre et l'incompréhensible. Le tout en musique, bien évidemment. Qui est le criminel? Des proches disaient que seule la torture distinguait l'homme de l'animal. Et le juste punir de Foucault est plus que jamais aujourd'hui d'actualité. Durant une petite heure, donc, mais juste après, Louis Armstrong.
On ne savait presque rien de ce syndicat du crime jusqu'à présent. Or, aux États-Unis, à côté du gouvernement le plus riche et le plus puissant du monde, grouille un autre monde qui a lui aussi son gouvernement, son organisation et ses lois.
C'est quoi un criminel? C'est qui un criminel? C'est tout le monde. En fait, tout le monde peut être un criminel. On est des criminels potentiels, tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres sociaux. Parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a des émotions. Et n'importe en quel moment, on peut commettre un crime.
Qu'on soit dans les recoins d'un club de jazz ou au détour d'une prison, ou on est tous en fait.
En fait aussi, il y a des crimes, tu sais, qu'il peut être motivé pour une chanson en plus. On trouve dans les prisons des tueurs qui étaient motivés pour n'importe quelle chanson, dans un moment dans sa vie où cette chanson a trouvé une signification beaucoup plus forte que les mêmes sentiments. Donc, c'est la motivation musicale, même à cause de cette substance chimique appelée endorphine naturelle qui te fait sentir dans le corps la musique, qui a aussi fait la motivation pour pouvoir passer un acte.
Le petit goût en plus, la petite cerise. Qui te fait passer source. dans le petit grain de démence.
C'est ça.
Il y en a qui disent que la démence fait le charme d'une personne, mais peut-être que ça déplace tout, du coup.
Tout. on va écouter maintenant une autre chanson en parlant des criminels. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant ?
On va écouter un petit titre de Curtis Mayfield. Les criminels ont commencé très tôt. On va parler du premier meurtre.
Du premier assassin.
On peut parler de
qui
Caligula. On peut parler de Néron. Caligula qui empalait et qui affichait ses victimes sur la Via Appia de Rome pour éclairer le passage et pour dissuader les gens. Il y en a eu après. Là. On a vu un des plus connus, je crois. Dracula.
Cette complexité de personnages de Dracula, renouvelée par les thèmes modernes chers à la psychoanalyse, comme l'association de Eros et de Thanatos, du désir sexuel et de la morte, ou les questionnements des limites entre la bête et l'homme, entre la vie et la morte, ou entre les biens et le mal.
Selon certaines sources, Dracula était un monstre, un modèle de cruauté, une brute qui aimait répandre le sang, le feu, la mort partout. Et ses victimes se seraient comptées en milliers, en dizaines ou en centaines de milliers. Cette thèse d'essence occidentale trouve son origine dans la haine et le ressentiment de ses adversaires, les marchands saxons et les boyards de Valachie. Il faut rappeler que selon la légende, Dracula était en réalité Vlad III, prince de Valachie à la fin du XVe siècle. Vlad III dit l'empaleur. On dit que Vlad brûlait, mutilait, friait, clouait, enterrait vivant et bien sûr empalait tous ses contradicteurs. Est-ce qu'on peut y voir un premier sentiment globalisé de pouvoir, la soif du pouvoir?
La soif aussi de tuer, la soif de tes savoirs impotents, de tes savoirs très puissants, très qui le monde t'appartient, que la vie d'un autre t'appartient.
Est-ce que ça fait partie aussi de la définition du crime passionnel?
Les crimes passionnels, c'est surtout tous les crimes qui sont, ou les mots vils, c'est la jalousie. La jalousie.
La jalousie.
La jalousie, surtout. Et aussi, normalement, il y a les triangles amoureux entre trois personnes. Mais c'est dessiné surtout les crimes passionnels comme un meurtre ou une tentative de meurtre dans les mots vils, comme je disais tout à l'heure, et la passion amoureuse, la jalousie amoureuse. La victime est en général un être aimé, de tueur, et l'agent trompé où vient son amant.
Est-ce qu'on laisse ce petit amalgame que l'on fait entre les crimes de pouvoir, les crimes passionnels, mais ça peut être aussi des crimes d'argent, ça peut être des formes.
Je crois que oui, il y a quelques histoires comme ça. Mais maintenant, en parlant de crimes de pouvoir, on va écouter la chanson suivante qui parle surtout des sentiments de pouvoir entre l'homme et l'animal. Matador.
Hey!
En quoi peut-on considérer la corrida comme un crime en ces temps de feria?
Dans les moments où il y a les plaisirs en voyant la souffrance d'une autre, soit personne, soit animal, d'un autre être vivant, c'est considéré comme un crime. Malheureusement, ça dépend la personne qui parle de ça, mais selon mon point de vue, malheureusement, selon les psychoanalystes, il s'est pas considéré la corrida comme un crime, parce que c'est seulement parler de la nature de l'homme, de tuer. Par exemple, quand l'homme, depuis l'ère préhistorique, avec la chasse. Mais si on considère que dans la corrida, tu fais un acte de tuer, pas pour la supervivance, sinon plutôt pour le plaisir de tes savoirs, ou des savoirs que tu es beaucoup plus puissant que l'animal.
Pour la beauté de tuer.
Pour la beauté de tuer, c'est ça. C'est drôle de dire beauté, mais tu sais, c'est aussi un art. Tuer, il manque de technique, quoi. Il faut avoir une technique, il faut avoir de l'intelligence, mais il faut avoir aussi
un scénario. Une mise en scène.
Exactement.
Le crime parfait de Hitchcock.
Exactement.
Je voulais revenir avec toi sur ces crimes passionnels.
Sur les crimes passionnels, les crimes passionnels font souvent l'objet de législations particulières, car il est considéré aussi que la passion amoureuse fait perdre le contrôle de soi-même dans les cas extrêmes, notamment des jalousies. Il est donc souvent moins sévèrement puni que les autres types de meurtres, que ce soit dans la loi d'exception, ou seulement dans les faits, circonstances jugées atténuante. En France, par exemple, il est une des formes d'homicide les moins sévères punies, les crimes passionnels. On a les cas, par exemple, de J. Simpson, par exemple. Mais aussi, tu sais pourquoi, par l'influence de la littérature des 19e siècle. C'est pour ça que, à cause de cette influence littéraire, c'est un des crimes le moins puni, ici en France surtout.
Est-ce qu'on peut voir dans toute la littérature le roman noir, le polar, et aujourd'hui avec les séries télévisées je pense à l'inspecteur en impair, à Columbo, on voit que bizarrement c'est peut-être cette forme de cinéma et de littérature qui a peut-être le plus de succès en grand public. Est-ce que ça serait pas un peu un paradoxe? Tu vois?
Peut-être.
On refuse, c'est le crime, c'est puni par la loi, mais on se complaît à voir et à aimer ces histoires.
Malheureusement.
Tout comme les films de guerre, les films d'action.
Malheureusement. C'est comme les suicides en Roméo et Juliette.
Oui.
C'est comme aussi tous les crimes qui parlent dans la littérature, par exemple les rois, les reines de France qui ont commis des crimes passionnels. Et on a des très jolies histoires dans la littérature française. Qui malheureusement ne sont pas vus comme des crimes méchants ou des crimes très mal vus. Quoi.
C'est un peu le fruit défendu qu'on tente d'approcher en ouvrant un livre, en s'imaginant, mais qu'on ne passera sans doute jamais.
Mais t'imagines voir dans un crime les romanticismes.
Le romantisme.
T'imagines.
Mais on revient un peu sur la beauté de tuer des corridas.
C'est ça.
Voilà. Et tous ces serial killers, ces tueurs en série qui... Tout un art pour développer leur art. C'est ça. Ça prend du temps. C'est une musique. C'est une musique, tu es. Asesino, l'assassin de l'espagnol Chica.
On va parler des suicides, du latin sui, soi, et sidium, acte de tuer, et l'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Dans les domaines médicaux, il est parfois aussi question des autolys, du grec auto, haute, soi-même, et lucis, destruction.
Pourquoi pas?
Selon une définition moderne qui ne préjuge pas des intentions de la personne et de juger pas son acte, ce suicide est l'acte qui a pour effet la mort d'une personne et dont l'intention est soit d'en finir avec la vie.
Oh, no peleas que por estar desnudo así. No voy a pasarme de puntitas en tu jardín. No creas que esta navaja es para mí. La traje para rascarte a ti. Ay, ya está morir.
Le suicide est l'acte qui a pour effet la mort d'une personne et dont l'intention est soit d'en finir avec la vie, soit de produire un nouvel état de choses, comme le soulagement de la douleur, dont le sujet pense qu'il ne peut être atteint qu'au moyen de la mort ou qu'il conduira à la mort. Est-ce qu'on peut considérer le suicide comme un crime ?
Eh bien, le suicide est un acte complexe qui ne peut être approché à l'aide d'une seule et unique discipline. Lorsqu'il est question de suicide, il est nécessaire de faire appel à plusieurs domaines, tels que la médecine, la psychopathologie, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la théologie, ou même l'histoire aussi. L'origine aussi du mot « suicide », formé évidemment d'après « homicide », et donc était récente, par exemple sa paternité, est souvent attribuée à un écrit de Lave des Fontaines en 1737, par rapport à la observation sur les écrits modernes, mais dès 1734, l'abbé Prévost parle des suicides dans sa Gazette pour et contre. Ce néologisme latin semble même avoir été utilisé de les 15e siècle par les casuistes pour contrebalancer le mot homicide, utilisé jusqu'à là et jugé trop fort. Voltaire aussi, qui publiait en 1639 « Du suicide ou de l'homicide de soi-même ». Et aussi, il y a les encyclopédistes qui acceptent ces néologismes et le diffusent.
On en revient malheureusement sur un thème assez glauque, sur le suicide qui nous vient parfois du crime passionnel également, d'une déception amoureuse.
Comme la chanson suivante qu'on va écouter, qui s'appelle « Killing Me Softly ».
Canta mi historia esa voz, suave me mata su ritmo, esos acordes yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras. Su emoción.
pasión. Era un muchacho dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel, qué suerte tuve de conocerle. Toca mi piel cuando dice hondas palabras de amor. Suave me mata su ritmo y al encontrarle ya nada pareció extraño. Me hizo sentir de nuevo la pasión. Pedazos de mi vida narraba su canción. ¿De dónde me conoce? Qué extraño, pensé yo. Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto. Un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando con su canción. Me encantó, una emoción increíble.
Mi hermana se gusta. Esperó toda la noche, pero nunca amaneció. Desesperada voló por los cielos y en esta avenida cayó. Así, ya sin más ni menos, abriéndose de capa la cubrió. El eco de la risa de las dos. Por una ventana entra el diablo, por la otra sale Dios. Y alúmbreme bien la montaña que voy subiendo tenaz. Y rece si no llenara, que llegaré a gritar.
This is the end, my only friend.
On a parlé de suicide, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que les criminels ne sont peut-être pas ceux que l'on enferme. Il y a peut-être quelque chose avec ça qui est, je sais pas, je pense à ce grand mot, ce mot très important pour lequel certains se battent, le génocide.
Les génocides. Tu sais, le génocide, si on veut le définir, est l'extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe ou d'un parti d'un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Le terme génocide est aussi un néologisme formé en 1944 par Raphaël Lemkin, professeur de droit américain d'origine juive, polonaise, à partir de la racine grecque génos, qui ça veut dire naissance, et gendre, qui ça veut dire espèce, et des suffixes cid, qui vient du terme latin caedere, qui ça veut dire tuer ou massacrer. Le terme est aussi apparu pour la première fois dans son étude qui s'appelle Axis Rule in Occupied Europe en 1944. Et aussi, le mot est introduit au chapitre intitulé Génocide pour tenter de définir les crimes perpétrés par les nazis à l'encontre des peuples juifs, slaves et Tisane.
Et Tsigane.
Tsigane. Durant la Seconde Guerre mondiale.
Alors les génocides, on l'a peut-être défini, comme tu dis, après la Seconde Guerre mondiale, mais ça existe malheureusement depuis pas mal de temps.
Ah oui.
Je pense aux guerres de religion, à la Reconquista, à l'Inquisition, toutes ces saloperies, et aujourd'hui.
La colonisation.
T'imagines. Le commerce triangulaire. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, dans ces crimes-là. Les disparitions, les enlèvements, pour des raisons politiques.
Tout le monde est coupable, je crois.
Je crois que c'est un truc comme ça.
Me llamo Chavas. Este siguiente tema se lo queremos dedicar a gente que ha dado su vida por los ideales. En especial a todos los zapatistas, los indígenas chiapanecos en México que han luchado por su dignidad. Esta canción se llama Desapariciones.
Y el maestro Rubén Blades.
Preguntaban, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salve anteanoche. Pues esto antes no. Ok, Rubencito.
Salió del trabajo, va a la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Fui a la PSN y hasta el hospital.
Pantalón claro, camisa rayas. Salió anteayer.
¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuando vuelven desaparecidos?
Con la emoción apretando por dentro. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora no saben ni que quién se la llevó del cuartel.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparece?
Porque no todos somos iguales.
Cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae pensamiento,
como se le habla al desaparecido,
con la emoción apretando por dentro.
un orgullo, un honor tener a un latinoamericano con el talento y el corazón del señor Rubén Blades.
Muchas gracias. Muchas gracias, Manay. Muchas gracias, Caracas, otra vez. Gracias, muchachos.
Quiero decirles que esta canción nos inspiró de Rubencito, porque habla de los derechos humanos y habla de una realidad que confrontamos todos los latinos aquí, en este continente herido, en este continente que todavía no se le cierran las heridas. Como México, como Venezuela y como muchos otros países, tenemos problemas y los vamos a solucionar tarde o temprano. ¡Que viva Venezuela, Caracas!
Je ne crois pas que nous arriverons à battre totalement la criminalité. C'est impossible. Peut-être que nous arriverons à faire mieux que nous faisons en ce moment en améliorant nos moyens techniques. Mais la chose essentielle dans la lutte contre la criminalité dans le monde entier, c'est d'avoir des policiers spécialisés qui prennent leur profession comme une vocation.
C'était le groupe Mana avec le titre Desaparecidos. Ce sont les victimes des disparitions forcées qui ont secrètement été arrêtées et tuées en Argentine pendant la sale guerre entre 1976 et 1983, pendant la dictature militaire en Argentine du général Videla.
Exactement, la qualification de génocide a été utilisée par des juges argentins et chiliens contre des tortionnaires des régimes Pinochet et Videla, qui ont tenté d'éliminer radicalement les activistes de gauche sur les critères de leurs opinions politiques. De plus, certaines législations nationales sont moins restrictives. C'est le cas de Portugal, du Pérou, du Costa Rica, qui incluent les tentatives de destruction des groupements politiques ou des groupes sociaux.
On est bien dans la criminalité. Alors je voulais terminer cette petite émission par un titre de Monsieur Boris Vian. Le titre La Java des bombes atomiques, qui est sorti en 1954. Et rappelons qu'en 1945, nos chers voisins américains envoyaient la première bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et le monde entier prenait alors conscience du nouveau danger incarné par la bombe atomique, la bombe A, et la bombe thermonucléaire, la bombe H. Avec ces deux événements, ce sera tout un monde issu de l'héritage des Lumières, on en parlait, qui s'écroule. En effet, au 18e, au 19e siècle, la science, on la voyait uniquement comme un vecteur de progrès, et elle permettait d'améliorer la vie quotidienne. Et un jour, permettre à l'homme de ne plus être dépendant de la terre et de ne plus avoir à travailler. Cette chanson traite, avec un cynisme lucide, les nouvelles inquiétudes de cette génération, qui avait déjà expérimenté la folie des hommes entre 39 et 45. Rappelons que Boris Vian est un grand pacifiste.
Organisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Voilà ce qu'on peut vous dire brièvement sur Divergence, sur la folie humaine. Je crois qu'il va être malheureusement l'heure de nous quitter. On va remercier Antoine à la technique.
Tu veux m'étouer alors ? Tu veux m'étouer maintenant en finalisant les programmes ?
On va attendre encore un peu, au moins jusqu'à la semaine prochaine.
D'accord.
Je crois que la semaine prochaine, on va prendre peut-être un thème un peu plus jovial. Parce que bon, voilà. Je crois qu'on va parler un peu des vacances.
Tout à fait.
On se quitte sur du maïs ? On se quitte sur du maïs.
À la semaine prochaine.
Qu'est-ce qu'il y a ?